Père Philippe, théologie mystique, le sacerdoce du Christ, le 20 mars 87, Rimont.
Nous allons continuer d'interroger l'évangile de Saint Jean pour découvrir toute la profondeur du sacerdoce de Jésus.
Yeah.
sacerdoce pour revêtir le tablier de l'esclave qui montre l'aspect victimal. Et Jésus, dans ce geste, montre son pardon. Son pardon à l'égard de tous, et spécialement son pardon à l'égard de Judas, à l'égard de Pierre, à l'égard de Jean. Il y a peut-être les trois, vous voyez. Pierre, on le nomme, c'est le seul. Judas, on sait qu'il est là. Et on sait que le geste du Christ auprès de lui, puisque là Jésus était seul auprès de lui, au moins pendant quelques instants, n'a produit aucun effet. Ce geste d'amour, de miséricorde, d'humilité, de pauvreté, n'a pas touché le cœur de Judas. Judas est resté fixé dans son intention, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer. Ça, c'est resté fixé. Puisqu'autrement, Jésus ne dirait pas ce qu'il dit après avoir consacré l'Eucharistie. Et on peut dire que c'est pour Jean aussi, étant donné l'intimité si grande qui existe entre Jésus et Jean. Oui, on pourrait dire que pour Jean, c'est pour que Jean puisse connaître cette si grande intimité avec Jésus au moment de la scène. Ça ne m'étonnerait pas du tout, voyez, que ce soit comme la conséquence de Jésus. Simon-Pierre, à table, tout contre le sein de Jésus, se trouvait un de ses disciples, celui que Jésus préférait. On ne dit pas que pour la première Pâque, il était si proche. Je ne crois pas. Je crois que c'est après la lavant des pieds. Là, j'interprète. Mais c'est quand même indiqué. Alors, voyez, on aurait trois effets qu'on peut immédiatement, si on est très attentif au texte, qu'on peut dire. Le lavant des pieds pour Pierre. Alors, celui-là est explicite. Pierre en avait besoin. Parce qu'il avait un sens de l'autorité beaucoup trop, on dirait aujourd'hui, formaliste. Il avait le sens de l'autorité. Il y a des gens qui ont un sens de l'autorité, naturellement. Nati sunt ut exemplar. Ils sont nés pour être exemplaires. Alors ils ont un sens de l'autorité naturelle. Et il faut que ce sens de l'autorité naturelle soit transformé par la grâce. Et le geste du Christ est fait pour cela, pour que l'amour passe au-delà de l'autorité. Parce que quand on a un très grand sens de l'autorité naturelle, quand on est un homme de droite, naturellement parlant, et quelquefois amplifié par une éducation, par toute une tradition, alors on a un sens de l'ordre, et l'ordre passe au-dessus de tout. Et Jésus fait un geste bien, donc il l'est véritablement. Je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Donc, c'est très net. Ce geste institue un nouvel ordre. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Dieu donne la loi. Jésus n'y a que Jésus qui peut faire ça comme législateur. Mais l'abbé Pierre disait, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est très important. L'abbé Pierre disait, je l'ai entendu de mes propres oreilles à Fribourg, que toute loi devait être faite pour le plus misérable. Ah, vous voyez, si on fait la loi pour le plus misérable, c'est le point de vue de la miséricorde. C'est plus la justice. Alors il y a confusion entre l'ordre de nature et l'ordre surnaturel. Dans l'Église, la loi doit regarder le plus misérable, mais pas dans l'État. Et là, c'est très significatif, vous voyez. Et c'est ça qui est important ici, parce que Jésus, là, établit une loi, il le dit. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds. La loi nouvelle se fait à travers un geste. Pourquoi ? Parce que la loi nouvelle est une loi d'amour qui comprend le geste. Une loi qui regarde la justice ne peut pas se traduire dans un geste. Tandis qu'au contraire, la loi nouvelle, qui est une loi d'amour, peut se manifester à travers un geste. C'est tout ça qui est impliqué dans ce geste de Jésus. Et je crois qu'on peut dire, par rapport à Jean, on peut dire que ce geste réalise ce qu'il signifie. Il est efficace dans le cœur de Jean. Que Jésus lave les pieds de Jean. La réponse de Jean, c'est un amour d'intimité. C'est sa réponse. Puisque Jésus vient laver les pieds, la source de Luc 22 ne peut pas supporter que dans le dernier repas, le mystère de la scène, Judas, soit présent. Donc, il veut, connaissant trop bien la miséricorde du Christ, il veut être le bras séculier. C'est un beau divide, hein. D'extraordinaire, comme c'est difficile de maintenir la miséricorde jusqu'au bout. Quand vous êtes en face de Jésus, qui lui est pleinement miséricordieux, vous voulez compléter cette miséricorde par le bras séculier. Vous voulez compléter ce geste de miséricorde par un geste de justice. Rappelez la justice. Alors on revient. Je trouve ça très très beau. Parce que ça nous montre que la grâce, même donnée directement par Jésus, par un geste du Christ, met du temps à transformer notre psychologie. Le levain qui doit transformer la pâte, ça met du temps. Et ça ne veut pas dire du tout que Pierre n'a pas reçu efficacement le geste du Christ et le sacrement de l'Eucharistie. Mais ça met du temps. Vous pouvez faire le parallélisme entre Abraham dans sa relation vis-à-vis de Sarah. Même après la foi, Abraham commet ce gros mensonge pour sauver sa peau. C'est ma sœur. Parce que ça, c'est très important. C'est la théologie vécue, ça. Et ça permet d'être extrêmement miséricordieux vis-à-vis de ceux qui sont proches de nous. Et pas tout de suite juger. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire toujours miséricorde. Ça, c'est vrai. L'homme ne peut pas toujours faire miséricorde. Mais le chrétien entre dans un ordre nouveau qui est la miséricorde. Alors on voit la docilité du Jean à l'égard de Pierre. Parce que Jean aurait pu répondre, nous aurions fait ça. Tu n'as pas encore compris. J'aurais pu dire ça à Pierre. Jésus qui veut corriger son autorité. Mais on n'a pas à demander à Jésus un secret. Pierre n'a pas à être le bras séculier d'établir la justice. Parce que Jésus vient de dire que lui, maître et seigneur, il fait le geste de l'esclave. Alors est-ce que Pierre est capable de faire aussi le geste de l'esclave à l'égard de celui qui va trahir? Eh bien, Jean ne juge pas Pierre. Ça, c'est une des attitudes essentielles de Jean à l'égard de Pierre. Et c'est très important pour le comprendre, ça. Parce que ça fait comprendre le sacerdoce de Jésus. Jean ne juge pas Pierre, il exécute. Seigneur, qui est-ce ? Jésus donc répond, c'est celui pour qui, moi, je tremperai la bouchée et à qui je la donnerai. Donc, Jésus répond. Mais il répond uniquement pour Jean. Il met Jean dans le coup. Parce que Jean a compris que la miséricorde pouvait aller jusque-là. Vous voyez, on voit l'efficacité du geste du Christ sur les trois. Et là, c'est très beau. Parce que ça nous fait découvrir je crois qu'il faut revenir souvent sur ce geste de Jésus du lavement des pieds, pas seulement le jeudi saint. Pour nous, ça se fait un peu plus souvent à la grotte de Lourdes, n'est-ce pas? Et ça se fait chaque fois qu'il y a une entrée en communauté. Donc il y a quelque chose là qui est tout à fait particulier et qui est très important pour nous. Ça, c'est une grâce joannique. Je crois que la grâce joannique consiste pour nous à comprendre ce qu'est ce geste que Jean seul nous donne, qui est donné au point de départ et qui est réservé au terme. La miséricorde doit être pour nous. La miséricorde du Christ doit être pour nous, je dirais, la règle de jeu de notre communauté. Il faut que le geste du Christ soit toujours en acte, sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Promesse d'être heureux, donc d'être joyeux. S'il manque de temps en temps un peu de joie, c'est parce que nous n'avons pas accepté d'aller jusqu'au bout du geste de la miséricorde de Jésus. Nous l'avons encore un tout petit peu trop reçu comme Pierre, et là encore reçu comme Jean. Et Jean peut pas de le recevoir comme lui. Oui, j'insiste parce que je crois que là, il y a un grand mystère. Il y a un très grand mystère. Et alors, nous assistons à ce moment-là à ce dévoilement du trait. Ce dévoilement du traître se fait donc par le geste du Christ, qui est le dernier geste d'amitié que Jésus a fait pour ses apôtres. Et ce dernier geste d'amitié, c'est pour Judas. Trempant alors la bougie, il la prend et la donne à Judas, fils de Simon d'Iscariote. Et après la bougie, alors le Satan entre en lui. Alors je vous avais dit, et je crois que c'est le sens que nous devons essayer de comprendre. Vous comprenez bien que si ce geste c'était le mystère de l'Eucharistie, on ne comprendrait pas. Étant donné qu'au milieu des apôtres, il y en a un qui refuse l'Eucharistie, c'est Judas. Donc Jésus le donne, l'Eucharistie, à Judas, parce qu'il le donne à tous. Yes. pour les autres, il n'a pas besoin. Parce que la réalité de l'Eucharistie va plus loin. Et comme Judas n'a pas reçu le mystère de l'Eucharistie en esprit, dans sa foi, Judas a besoin de ce geste. Et Jésus le donne pour aller jusqu'au bout de la miséricorde. Et si vous traduisez de cette manière, je crois qu'on saisit quelque chose qui va très loin. Parce qu'on voit comment Jésus, bon pasteur, ne chasse pas la brebis galeuse, mais veut l'atteindre jusqu'au bout. Ça nous donne des leçons énormes, ça. On n'a pas le droit de mettre à la porte quelqu'un. Même si on sait qu'il nous trahira. Jésus va jusque-là. Bien, c'est de la folie au point de vue de la prudence. Tout à fait. Et Pierre dirait, non, non, on ne fait pas ça. Parce que Pierre a le sens de l'autorité. Eh bien, Jésus le fait. Et Jésus nous fait comprendre que c'est un exemple. après la bouchée. Alors Satan entra en lui. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le bien vite. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprirent pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait, achète ce dont nous avons besoin pour la fête. La fête, elle vient d'être faite. Ou bien, donne quelque chose aux pauvres. Ça, c'est plus pieux. Ça dépend de l'inconscient de chacun. Alors là, il y a un inconscient très pieux. Admoto, moi, j'ai bien dit, on voit très très bien. Alors, il reçoit ça. Il voit ce geste immédiatement, cela, comme si Jésus donne quelque chose aux pauvres. Ayant donc pris la bouchée, il sortit aussitôt. C'était la nuit. Donc, il exécute ce que Jésus dit. Mais il exécute dans un sens inverse. Lors donc il fut sorti, Jésus dit, maintenant a été glorifié le Fils de l'homme, et Dieu a été glorifié en lui. Si donc Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui, et c'est bientôt qu'il le glorifiera. Alors c'est très curieux, au point de vue du structuralisme. C'est très curieux. C'est la densité de l'affirmation de la gloire au moment où Jésus subit la plus grande trahison. Il y a un contraste extraordinaire qu'on doit saisir parce qu'il est voulu et le Saint-Esprit assiste. Donc au moment où Jésus est le plus humilié, il n'y a rien de plus humiliant pour le cœur de l'homme que d'être trahi par un ami. Tout le reste, c'est rien. Un ennemi, ça ne fait rien. Mais trahi par un ami, trahi par celui qui devrait être vrai auprès de son ami. Il reçoit le baiser comme la bouchée trempe.
Du corps, même le coup de lance, n'est rien
justement la personne à qui il fallait pas la dire. C'est tout le temps comme ça. C'est très rare aujourd'hui que quand on confie un secret, que ce secret ne soit pas trahi. Alors quelquefois ça n'a pas d'importance, c'est des secrets de polichinelle. Hein. Vous voyez bien, l'assignation de quelqu'un, c'est très bien, c'est pas terrible quoi, c'est, faut relativiser ces choses-là. C'est pas grand chose. Il y a des secrets beaucoup plus terribles quand ça regarde des liens personnels d'amour. Et qu'on voit que ces secrets sont diffamés, trahis. Alors ça blesse, ça meurtrit. Et Jésus nous fait comprendre que pour lui, ça va loin. Il s'agit de sa vie. Il s'agit de le conduire devant Pilate. Jésus montre que cette trahison, c'est pour lui la glorification. Là, on touche la victoire de l'amour. Et on comprend ce que c'est que le sacerdoce du Fils. Maintenant a été glorifié le Fils de l'homme. Et Dieu a été glorifié en lui. Si donc Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui. C'est bien tous. Bientôt qu'il le glorifiera. Donc, 5 fois en 2 versets. C'est pas si mal. Cette glorification qui passe d'un loin à côté de l'autre. Je crois qu'il est là pour nous faire comprendre justement ce très grand mystère de la trahison qui blesse l'âme de Jésus dans ce qu'elle a de plus profond et qui est source. Déjà vu, mais il faut tant de temps y revenir. Qu'est-ce que c'est que la gloire? C'est très difficile. J'ai lu une thèse à Fribourg d'un étudiant qui essayait de comprendre ce que c'était que la gloire historiquement. Du point de vue exégèse, c'était très bien. Du reste, il a passé son doctorat. J'avoue, théologiquement, posez-vous la question. Je crois que la gloire dans l'ancienne alliance apparaît toujours liée à la victoire de l'amour. Quelquefois à une victoire tout court. Mais c'est toujours la victoire de l'amour. Il n'y a pas de gloire sans victoire. Humainement parlant, c'est très net. Si vous ne risquez rien, vous resterez dans vos pantoufles. Et la gloire ne viendra jamais. Le martyr du théologien en pantoufles. C'était ce qu'on avait proclamé au Sauchoir. Non, une fois. Le martyr du théologien en pantoufles. Et on faisait un professeur. C'est vite. Mais la prudence prend tout. Alors elle fait le martyr du théologien en pantoufle. Il n'y a pas de gloire alors. Il n'y a pas de gloire en pantoufle. Ça me semble difficile. Dès qu'il y a un risque, il peut y avoir une victoire. Et la victoire réclame la gloire. La victoire se transforme en gloire. Au point de vue humain, ça me semble très net. C'est du reste pour ça qu'Aristote dit que la gloire et l'honneur, honor et gloria, ça se touche, c'est pas pas tout à fait la même chose. La gloire, il y a un petit panache de plus que l'honneur. L'honneur, on reconnaît. On reconnaît quelqu'un pour toute la dignité qu'il a, l'honneur qui lui est dû. Tandis que la victoire, il y a quelque chose de plus. Parce que la victoire, justement, dépasse la dignité de la personne. Tandis que l'honneur regardera la dignité de la personne. Alors, la gloire, c'est, je crois, toujours lié à une victoire. Alors, en Dieu, pour Dieu, c'est la victoire de l'amour. Dans le Christ, c'est la victoire de l'amour. Et ça regarde directement le sacerdoce du Christ. Le sacerdoce du Christ est glorieux. Parce qu'il implique une victoire d'amour. Si Jésus prend la place du pécheur, il assume toutes les égratignures. Il assume tous les mépris. Il assume tous les rejets. Et il offre dans l'amour. C'est pour ça que c'est très important de souligner.